BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Chaque vendredi, les pros des cryptos, c'est la dernière de la saison. Tiens, l'endroit, c'est vrai, l'avenir. L'avenir, c'est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. La blockchain en contient une bonne fraction de cet avenir. On en parle tous les vendredis donc. Avec nos trois experts, Claire Balva vient de nous rejoindre, cofondatrice de Blockchain Partner. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Il est avec nous également en direct depuis sa Moselle, sa chère Moselle, Owen Simonin. Bonjour Owen. Alias
bonjour.
Asher et sa chaîne YouTube, Asher A. H, oh là là, on va y arriver. H, A, S, H, E, U, R. Et Vincent Gann également avec nous pour TradingView France. Merci à tous les trois de répondre présent une nouvelle fois à l'appel de BFM Business. Vincent, 2 mois sont passés depuis cette fameuse séance de sell-off du 19 mai dernier où le Bitcoin, les cryptos, un certain nombre d'entre elles on va dire se sont dégonflées. 2 mois d'une période sans tendance depuis avec un volume et une volatilité assez faméliques. La situation technique est-elle néanmoins désormais en train d'évoluer sur le Bitcoin en tout cas?
Et enfin, on parlait un instant du marché action qui, lui, repart en tendance haussière et est toujours proche de ses records historiques, qui n'a pas connu de chute, de crack. Bon, on sait tous, hein, ce sont les cryptos qui, en avril et mai dernier, ont connu un vrai choc baissier. Depuis ce choc baissier de 50% environ sur le cours du Bitcoin, il ne se passe plus grand-chose. Donc, effectivement, 2 mois que les prix dérivent latéralement, avec de moins en moins de volume, de moins en moins d'engagement, avec toujours 2 scénarios qui s'opposent, qu'on commence à connaître par cœur. Le marché s'est stabilisé sur 30 000 dollars. Soit il est en train de construire une base pour repartir en bull run, une phase d'accumulation, soit c'est une phase intermédiaire pour aller chercher encore plus bas, et c'est le niveau des 20 000 dollars, l'ancien record historique, que tout le monde a en tête. Alors, cette semaine, tout de même, depuis 72 heures, il se passe quelque chose. Il y a une belle séance de rebond au milieu de semaine. C'est la quatrième, d'ailleurs, sur ce niveau des 30 000 dollars. Sur l'engagement, notamment institutionnel, sur le volume, il y a un frétillement, il y a quelque chose. Donc, bon, loin de moi, l'idée de dire que ce qui se passe depuis 3 jours est le point de départ d'une reprise de la tendance haussière. Mais voilà, ce qu'on peut dire objectivement, c'est que ce support à 30 000 dollars, il est défendu, archi défendu. Maintenant, pour envisager une reprise de la tendance qu'on a connue jusqu'au printemps dernier, il manque toujours cette vraie séance de rupture haussière qui se traduirait par le dépassement d'une résistance. Moi, celle que j'identifie comme étant clé, ce sont maintenant les 35 000 dollars. Donc voilà, semaine intéressante, mais à confirmer pour envisager que le point bas ait été trouvé sur ces 30 000 dollars.
Mais on est dans une phase de trading range. Hein. Comment est-ce qu'on travaille une phase de trading range comme celle-ci, et comment est-ce qu'on arrive à distinguer, ou on essaie de distinguer, une période d'accumulation d'une période de distribution dans cet univers et sur le Bitcoin en particulier, Vincent?
Oui, alors c'est ces phases un peu sans tendance qui durent, finalement chacun, chaque jour, essaie de trouver ses arguments pour essayer d'envisager la résolution de cette période de range. Puis finalement, les biais prennent le dessus. Hein. Il y a 2 camps de toute façon, hein, ceux qui attendent la chute, certains zéros, et puis les autres, la reprise d'une direction vers les 100K. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, d'un point de vue chartiste, moi, c'est mon approche, mais là, il y a rien qui apparaît, c'est vraiment un range classique. On peut se tourner du côté des indicateurs techniques dérivés des prix, sont éternisés sur le sujet. Il y a des divergences haussières depuis quelques semaines. Plus intéressant dans cette phase de range, les données de participation, de volume. Alors ces données sont publiques, notamment les données d'engagement des traders institutionnels, donc sur le marché des futurs et les options Bitcoin. Et depuis 2 semaines, il y a une remontée de la position ouverte nette. Alors c'est pas non plus exceptionnel, mais il y a quelque chose qui permettrait d'argumenter en faveur d'une phase d'accumulation. Et enfin, je termine, les données dites d'infrastructure. Moi, j'ai regardé par exemple l'évolution du nombre d'adresses Bitcoin actives. Bon, certes, ça a baissé depuis le printemps dernier, mais c'est pas non plus la chute libre comme en janvier 2018. Donc voilà, on peut avoir ce type d'approche en phase de range.
Oui, autant de signaux préliminaires peut-être de la fin de la période sans tendance dans laquelle on était plongé depuis à peu près 2 mois.
C'est exactement ça. Mais bon, au final, le juge de paix sera l'action des prix.
Ah oui.
Et puis voilà, il manque cette séance de rupture. Séance de rupture qui peut être d'ailleurs dans les 2 sens. Pour moi, il se passe quelque chose. Il y a un début de quelque chose cette semaine. Mais voilà, c'est probablement un biais qui prend le dessus. Donc, patience.
On a vu beaucoup de mouvements en revanche sur le marché action cette semaine qui depuis début juillet avait corrigé de 5%, puis là ça remonte avant de se reprendre en effet depuis quelques heures et quelques jours. Est-ce que ces déplacements de capitaux qu'on a vus d'une grande classe d'actifs à l'autre, on a vu beaucoup de mouvements aussi sur l'obligataire, est-ce que ces déplacements-là peuvent avoir ou ont pu avoir un impact sur les cours du Bitcoin ces derniers jours?
Alors effectivement, il s'est passé un certain nombre de choses. Bon, marché action a corrigé pendant un mois, même si là, il se reprend. Il y a eu un déplacement des flux partiellement vers le marché du crédit, bon, les contrats de taux. Au final, est-ce que cela peut avoir un impact sur les cryptos, le BTC? Les cryptos sont une, pour certains non, mais maintenant de plus en plus, sont une classe d'actifs. On ne peut pas comparer ça au marché action, au marché obligataire, mais une classe d'actifs de diversification. On peut regarder simplement ce que nous disent les mathématiques de base, hein, les coefficients de corrélation. À très long terme, il y a une corrélation positive avec le marché action. Donc c'est plutôt une bonne chose, là, le fait que les indices boursiers repartent en tendance haussière. Maintenant, depuis la crise sanitaire, il y a clairement eu deux phases. Jusqu'au printemps dernier, c'était corrélé positivement. Et puis depuis le printemps dernier, il y a eu un décrochage et une désynchronisation. Donc au final, plus le temps passe, il y a peut-être un affranchissement qui se met en place. Les cryptos prennent leur indépendance, mais ce sera toujours positif de voir le marché rester positionné à l'achat sur les actions, toujours positif pour les crypto-monnaies.
Voilà, sur le potentiel des cryptos et notamment du Bitcoin, on parlera tout à l'heure aussi particulièrement de l'Ethereum. Entre-temps, on va continuer de parler de ce monde, hein, que tissent peu à peu les cryptos, la façon qu'elles ont de changer, de faire muter la finance, et pas que la finance d'ailleurs. D'abord, ce petit proverbe chinois, je ne sais pas si vous le connaissez, Claire ou Owen, quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, d'autres préfèrent construire des moulins. En Europe, j'ai l'impression qu'on est très très fort quand le vent souffle pour construire plutôt des murs. La Commission européenne veut interdire les wallets anonymes, les portefeuilles de crypto anonymes d'ici 2024. Une nouvelle proposition de loi de la Commission européenne souhaite renforcer la réglementation relative aux transactions qui serviraient, dit-elle, pour le blanchiment et les transactions illicites. Par exemple, les transferts de cash seraient limités désormais à 10 000 euros. Et l'objectif serait aussi de tracer totalement les transferts crypto et rendre les wallets anonymes donc interdits. Quelles conséquences cette interdiction, si elle se confirme, pourrait avoir, Owen, pour les investisseurs et pour les entreprises crypto que vous connaissez par cœur?
Alors, et les conséquences seraient terribles sur plein d'aspects. Ce serait tout simplement la fin de ce qu'on peut appeler la finance décentralisée. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on devrait connaître l'identité de toute personne derrière une adresse. Et pour réaliser un KYC, en Europe, c'est pas simplement avoir le nom et le prénom de la personne. C'est valider son identité, c'est valider sa résidence, où est-ce qu'elle habite. C'est également valider si elle a bien son compte en Europe et bien vérifier que c'est un pays qui est sur la liste blanche des régulateurs. Donc certains pays ne pourraient plus échanger avec la finance décentralisée européenne. En plus de ça, ça rendrait totalement interdit, donc totalement illégal, toutes les crypto-monnaies anonymes. Il y a des crypto-monnaies qui sont anonymes, il y a des crypto-monnaies qui sont anonymisables, que l'on peut rendre anonymes, mais qui ne le sont pas forcément. C'est la fin du Monero, du Dash, du Zcash, du Green, de plein de monnaies qui ne vous parlent peut-être pas à vous, mais qui sont à peu près toutes très connues du monde de la finance décentralisée. Le problème, c'est un problème qui est un problème de compréhension, je pense. Et c'est ça qui est inquiétant. Je n'avais jamais entendu une proposition aussi grave pour l'écosystème que cette dernière. Le truc qui est dérangeant, c'est qu'on enlève totalement le côté décentralisé de la finance si on autorise de faire ça. Une grosse partie des valeurs qui sont cherchées par les personnes qui utilisent la finance décentralisée disparaîtraient tout simplement si cette loi venait à exister. Et ça pourrait être d'autant plus grave qu'il y a deux scénarios possibles. Le scénario où il n'y a que l'Union européenne qui fait ça, et là, c'est la fin, parce que là, tous les projets européens vont en très peu de temps devoir quitter l'Europe et aller exercer à l'international, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou sur le continent africain. Et la grosse particularité qu'il y a, ce serait que soit tous les pays mettent en place une même règle et une même loi, et à ce moment-là, c'est tout simplement la fin de la finance décentralisée, soit il n'y a que l'Union européenne qui le fait, et c'est pas simplement construire des murs, c'est construire des murs au moment où tout le monde va construire des moulins, pour revenir sur cette fameuse expression chinoise. Donc, pour revenir en une phrase, et je ne peux pas le dire plus violemment tout en restant assez simple et assez imagé, si la finance décentralisée, c'est un vélo, ce que propose l'Union européenne, c'est on est pour les vélos, mais surtout sans roues, sans pédales, guidon. En gros, en une phrase, c'est ça.
Bon, ben voilà, les choses sont résumées. Ceci dit, que la Commission européenne veuille interdire les wallets, donc les portefeuilles crypto anonymes, on peut d'une certaine façon malgré tout la comprendre. La transparence, c'est important. Claire, la traçabilité des actions frauduleuses aussi. Est-ce que cette interdiction ne serait qu'une mauvaise chose et seulement une mauvaise chose?
Alors forcément, les arguments, c'est la protection du petit porteur, c'est la lutte contre le financement du terrorisme. Enfin, c'est tous les arguments qu'on connaît et qu'on a l'habitude d'entendre. Mais je pense qu'Owen a donné un bon aperçu. Ça pose un vrai problème de compétitivité. Parce qu'on imagine que voilà, l'Union européenne va réguler les plateformes qui sont basées dans l'Union européenne ou les projets qui sont basés dans l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passe pour les plateformes étrangères? Est-ce que les citoyens européens pourront toujours y accéder? Bien, si oui, forcément, ça veut dire que tous les citoyens européens utiliseront des plateformes étrangères ou que ça va les pousser vers des plateformes étrangères. On peut aussi se poser la question des protocoles dont Owen parlait qui sont par nature, je dirais, anonymes. Ça va peut-être favoriser leur utilisation pour des transactions illicites, là où aujourd'hui, on est peut-être sur un entre-deux un peu plus sain, un peu plus équilibré. Et puis plus largement, alors peut-être philosophiquement, ça pose aussi la question de là où on a envie d'aller en tant que société. Quelles atteintes à nos libertés individuelles on accepte pour la protection collective, ou en tout cas ce qui est présenté comme de la protection collective.
Ça rappelle d'autres débats. Tiens.
Voilà, c'est un thème qui est d'actualité. Hein. On le voit avec la lutte contre le terrorisme, en ce moment avec le pass sanitaire. Alors, moi, je ne vais pas me prononcer sur ces sujets-là parce qu'ils ne me concernent pas. Mais je pense que sur l'anonymat des wallets, il faut faire très attention à ne pas s'orienter vers un modèle à la chinoise. Ce n'est pas un hasard si la Chine est en pointe sur le yuan numérique et sur sa monnaie de banque centrale. C'est aussi parce que c'est un pays qui est très centralisateur et qui a poussé assez loin le contrôle de sa population. Je ne pense pas qu'on ait envie de tendre vers ça en Europe. Et l'interdiction de l'anonymat des portefeuilles numériques, ça permet aussi plus de surveillance de la population.
Oui, ce serait cohérent avec la création d'un euro numérique dont la BCE a annoncé le lancement du chantier il y a quelques jours.
Malgré c'est tout. Peut-être en cohérence aussi avec cette stratégie-là pour laisser le champ libre à l'euro numérique. Oui.
Bon, on sent hein, que voilà, ce ne serait pas une bonne nouvelle manifestement pour l'écosystème, voire la Commission européenne en effet interdire les wallets numériques, donc ce sont les portefeuilles crypto numériques tout simplement. On ne peut pas investir dans les cryptos sans wallet ou on peut quand même investir dans les cryptos sans wallet?
Alors, en théorie, vous pouvez investir indirectement dans les cryptos. Par exemple, si vous achetez des actions de MicroStrategy ou si vous faites confiance à un tiers pour investir dans les cryptos, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, vous ne détenez pas vous-même vos cryptos.
C'est ça. Bon, on va suivre tout ça, bien sûr, de très près. Vous nous alertez hein, dans ce rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos. Il existe un pays tampon entre les banques centrales et l'univers crypto. Cette zone tampon, ce sont les stablecoins, les coins adossés aux monnaies traditionnelles que sont l'euro, le dollar, etc. Il en existe de plus en plus de stablecoins et on va zoomer tout de suite sur l'une d'elles. On dit un stablecoin d'ailleurs plutôt.
Un stablecoin.
Voilà, donc sur l'un d'eux. Le stablecoin euro de Tether. Alors Tether, c'est pas une planète, hein, c'est bien un stablecoin pour ceux qui connaissent pas. Un stablecoin euro, donc qui sera listé pour la première fois demain sur une plateforme européenne.
Sur Bitstamp, c'est ça, exactement. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte désormais que des stablecoins euros peuvent être créés par des entités privées. Alors Tether n'est pas à son coup d'essai. Hein. L'USDT aussi, c'est un très grand stablecoin indexé sur le dollar. Donc Tether va créer plus ou moins l'équivalent en euros. Et donc on se rend compte que des stablecoins euros peuvent être créés par des acteurs même hors de la zone monétaire euro et listés sur des plateformes qui sont là aussi basées hors de la zone monétaire euro. Donc on se rend compte là aussi que finalement la BCE peut créer un euro numérique en 2025, 2026, 2027. Mais le plus probable, c'est que des acteurs privés vont créer des stablecoins euros bien avant parce qu'il y a un besoin marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de stablecoin dollars que de stablecoin euros. Et donc, ce besoin marché va inciter des acteurs à créer ces stablecoins. Et donc, finalement, que l'euro numérique soit émis en 2025 ou 2027, c'est même plus un sujet. Ces acteurs privés vont arriver sur le marché. L'Europe peut décider, bien sûr, de les réguler, d'interdire même les stablecoins euros. Mais dans ce cas-là, la conséquence serait encore plus terrible, puisque ça pousserait les Européens à utiliser des stablecoins dollars. Et donc, ça donnerait au dollar encore plus d'hégémonie qu'aujourd'hui.
Oui, mais ça n'empêche pas la Banque Centrale Européenne de réclamer justement un droit de veto législateur sur les projets de stablecoin adossés à l'euro. Une décision qui, vous le disiez, laisserait le champ libre au stablecoin dollar. Et voilà, ce serait une forme de...
Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une écrasante domination des stablecoins dollars sur le marché. Il existe quelques stablecoins euros. Hein. Je pense au LUG, par exemple, qui est un stablecoin euro français qui a été créé par une filiale du groupe Casino, qui est listé sur CoinHouse. Je pense au stablecoin euro de Stasis. Donc, il y en a plusieurs, mais on est sur des capitalisations qui se comptent en quelques millions, quelques dizaines de millions, alors que les stablecoins dollars, on parle de dizaines de milliards de capitalisation. Donc, on n'est quand même pas du tout sur les mêmes niveaux.
Bon, et tout ça montre que la compétitivité, ça passera de plus en plus aussi par les crypto-monnaies, l'acceptation d'un certain nombre de stablecoins, la question aussi, les enjeux autour des portefeuilles de crypto-numériques dont on parlait à l'instant, et sur ces deux fronts, vous craignez que l'Europe prenne du retard l'un et l'autre, Owen Simonin et Claire Balva. Bon, si je vous dis the B word, ça dira probablement pas grand-chose à un certain nombre de néophytes. On va donc expliquer tout de suite de quoi il s'agit, parce que c'est une histoire vraie, c'est intéressant. Il était une fois quelque part de l'autre côté du globe aux États-Unis, une conférence intitulée donc The B Word avec le B de Bitcoin. Elle a eu lieu cette conférence, elle a vraiment eu lieu, c'était il y a quelques jours, mercredi dernier. Et les personnages emblématiques de l'écosystème crypto y ont participé. Des noms magiques, Jack Dorsey, le créateur de Twitter, il était là. Cathie Woods est apparu aussi, et bien sûr le très très spatial Elon Musk. Claire, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi traiter cette conférence The B Word, qui évidemment ne dira pas grand-chose aux néophytes, mais qui constitue une pierre de plus, une étape de plus pour faire avancer l'écosystème crypto?
Comme son nom l'indique, c'est une conférence 100% Bitcoin. Donc on a parlé que Bitcoin, c'était une conférence qui était très attendue puisque forcément il y avait des personnalités très fortes, hein, Cathie Woods qui gère une société de gestion d'investissement et qui est aussi une des pionnières du sujet. Vous l'avez dit, Jack Dorsey qui est le PDG de Twitter et bien sûr Elon Musk qu'on ne présente plus. Donc forcément cette conférence elle était très attendue parce qu'on attendait les positions aussi de ces personnes sur Bitcoin. Et le mot d'ordre c'était démystifier et déstigmatiser Bitcoin. Puisque vous le savez, ça fait quelques mois, quelques années maintenant qu'on est dans une forme d'institutionnalisation de Bitcoin, mais il y a encore des résistances du monde traditionnel. Donc je pense que l'objectif de cette conférence, c'était de l'acculturation sur le sujet à destination plutôt des institutions et pas tellement des particuliers.
On voit que cette conférence, elle a eu lieu aux États-Unis. On l'en voit aussi sur l'univers crypto, même si l'Europe risque de prendre du retard face aux autres. Mais est-ce qu'on voit aussi de plus en plus de conférences chez nous?
Bien sûr. C'était une semaine très active puisque cette semaine, c'était ce qu'on appelle l'ETCC, donc l'Ethereum Community Conference, qui avait lieu à Paris et qui rassemble toute la communauté Ethereum. Je crois qu'on en reparlera un peu après. Et puis, il y a aussi d'autres conférences qui vont avoir lieu. Je pense à Surfing Bitcoin fin août à Biarritz, qui va rassembler tout l'écosystème Bitcoin francophone. Donc, on voit ces conférences-là se multiplier et c'est une très bonne nouvelle.
Surfing Bitcoin. Ah oui, c'est à Biarritz, bien sûr, puisqu'on va surfer sur le Bitcoin. D'accord. Non, mais c'est intéressant. L'événement, en tout cas, c'est que sur cette conférence, pendant cette conférence qui a eu lieu donc aux États-Unis, c'était avant-hier mercredi, Elon Musk s'est exprimé. Il s'est exprimé une fois de plus sur le Bitcoin. Sa parole reste-t-elle écoutée, reste-t-elle respectée ou s'est-elle démonétisée? Est-ce qu'Elon Musk a de nouveau bousculé les marchés après ses allers-retours? Ou au contraire, est-ce que plus personne ne le croit dans la mesure où parfois il dit une chose et puis le contraire le lendemain? Owen?
Alors, il n'y a pas eu d'impact direct, comme on peut le constater en général, quand Elon Musk prend la parole. Beaucoup disent que c'est juste le marché qui a un peu plus de maturité et qui commence à arrêter de laisser Elon Musk influencer les cours à la hausse comme à la baisse. Encore une fois, quand Elon Musk prend la parole et en disant du bien d'une crypto-monnaie et qu'elle prend de la valeur, c'est parce qu'énormément de gens vont acheter à ce moment-là. Et quand le prix des crypto-monnaies baisse, c'est pas parce qu'Elon Musk a pris la parole, mais c'est parce que beaucoup de gens ont entendu qu'il a pris la parole et décident d'aller vendre ou d'acheter finalement. Donc en l'occurrence, ça n'a pas vraiment affecté le marché. Après, la petite chose assez drôle, c'est que c'était The B Word, donc le mot avec le fameux B, Bitcoin, et pourtant Elon Musk a réussi à rappeler quand même qu'il détenait également de l'Ether, du Dogecoin, et qu'il avait beaucoup d'espoir en la finance décentralisée, encore une fois, et qu'il pensait vraiment que c'était l'avenir qui allait se construire autour de ça. Pour en revenir sur la toute première question que vous m'avez posée aujourd'hui. En attendant, on a appris des choses assez intéressantes. Bon, on était au courant que Tesla et Elon Musk détenaient du coup du Bitcoin, mais on ne le savait pas pour SpaceX. Ça a été annoncé lors de cet échange. Et de la même façon, on apprend que Tesla pourrait bien se remettre à réaccepter le Bitcoin. Elon Musk disant qu'il avait arrêté d'accepter le Bitcoin tant qu'il n'avait pas vérifié lui-même qu'une grosse partie du réseau consommait de l'énergie verte. Mais maintenant que c'est chose faite, puisqu'ils ont rendu une étude et qu'il a pu vérifier lui-même la consommation énergétique renouvelable du Bitcoin, il s'agirait maintenant de réaccepter encore une fois le Bitcoin pour vendre des voitures Tesla.
Ah bah voilà, il a fallu qu'il aille dans l'espace donc pour estimer que le Bitcoin finalement est quelque chose d'assez propre. Non mais voilà, c'est Elon Musk et on va continuer évidemment d'entendre parler de lui, on peut l'imaginer dans cet univers crypto dont vous nous parlez chaque vendredi les uns et les autres. Là on a beaucoup parlé de Bitcoin et je vois déjà une partie de la communauté nous dire attention, l'avenir c'est l'Ethereum. On va aussi parler tout de suite de l'Ethereum puisque ça tombe bien, vous le disiez Claire, il va y avoir une conférence à Paris, c'était cette semaine, elle a eu lieu, voilà, c'était cette semaine la quatrième édition de l'Ethereum Community Conference, le grand rassemblement de la communauté Ethereum avec des conférences sur les avancées, les projets liés à ce protocole d'avenir, hein, manifestement. Owen, vous, sur l'ambiance, qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'ambiance qui était attendue autour de cette conférence, les échanges qui ont eu lieu, vous y étiez également, est-ce que quelque chose de nouveau ressort des échanges auxquels vous avez assisté?
Alors concrètement, oui, on entend vraiment beaucoup parler de finances décentralisées. En effet, je le rappelle, Ether est une blockchain d'infrastructure. il n'y a pas que la crypto-monnaie Ether, c'est le réseau Ethereum. Et sur ce réseau, énormément de projets existent et beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies fonctionnent grâce à l'écosystème d'Ethereum. Notamment toutes les nouvelles fonctionnalités de la finance décentralisée, les prêts et les emprunts décentralisés. On a également tout ce qui va être le liquidity providing et tout plein de solutions qui peuvent vous paraître complexes, mais qui sont en train de prendre vraiment, on est en train de se rendre compte tout simplement de la portée de cet outil et comment est-ce qu'il peut révolutionner profondément la finance décentralisée. Sans même revenir sur les NFT dont on a déjà parlé très fréquemment sur cette chaîne, les NFT ont pris énormément de valeur et c'est un sujet qui intéresse tout le monde depuis à peu près un an. Et depuis un an, il n'y avait pas eu de conférence comme ça. La plupart des conférences dans le monde de la crypto-monnaie ont été, comme la plupart des conférences internationales, annulées à cause de la situation sanitaire. Et donc, on a eu une ambiance qui était très particulière parce que premièrement, on a cette fameuse ambiance du monde de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que l'on en profite, on profite d'une conférence pour rencontrer quelqu'un avec qui on va parler tous les jours et avec qui on va travailler à l'autre bout du monde pour construire un protocole décentralisé. C'était déjà le cas dans la crypto-monnaie et c'est quelque chose qui a une ambiance assez particulière parce que ce sont des gens qui viennent, qui ont une culture différente, qui n'ont pas les mêmes origines, qui n'ont pas vécu les mêmes choses et c'est toujours des moments qui sont très enrichissants. Mais en plus de ça, on rajoute l'ambiance qu'on a de fait de pas d'avoir vu personne pendant presque un an et ça donne des conférences très animées avec beaucoup beaucoup de bienveillance, des soirées, des événements annexes où les gens se retrouvent autant que pour boire un verre que pour travailler. Ah bah et oui. Ça donne un envie très très plaisant à découvrir.
Et Vitalik Buterin, le père fondateur d'Ethereum, a rappelé que la vision d'Ethereum, c'est de porter la décentralisation bien au-delà de la finance. Où est-ce qu'elle nous emmènera cette vision que porte Ethereum de la décentralisation au-delà de la finance, Owen?
Eh bien, j'espère qu'elle nous emmènera pas au-delà de l'Union européenne et qu'on pourra l'exercer tout en restant ici. Ça, en tout cas, c'est une chose qui me tient à cœur et que j'ai bien prévu de défendre. Et une chose est certaine, c'est que la décentralisation couvre énormément de choses. Et là où c'est vraiment l'objectif de l'écosystème, ça va être de rappeler que c'est un réseau. En gros, on voit les crypto-monnaies comme des transactions. On envoie de la monnaie d'un point A à un point B, mais pas tout. Une transaction, c'est également une communication. Quand j'envoie un SMS à quelqu'un, c'est une transaction. L'objet de cette transaction, ce n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être une information sécurisée, anonymisée, qui ne concerne que la personne que je vise. Heureusement que toutes mes conversations ne sont pas publiées publiquement partout. Eh bien, c'est le concept même de la décentralisation. Toute transaction n'est pas purement financière. Et c'est ce que Vitalik Buterin a bien rappelé quand il a pris et qu'il a fait sa prise de parole, notamment en zoomant et en parlant beaucoup des réseaux sociaux décentralisés. Un jour, on aura peut-être un espèce de Twitter décentralisé dans lequel on ne sera plus un nom, un prénom, et où on pourra parler publiquement et se connecter en prouvant son identité grâce à sa clé privée. Il a donc fait pas mal de rappels sur la valeur de la décentralisation, aussi bien dans la communication que dans la finance et que dans toutes les applications, aussi nombreuses soient-elles, que l'on va pouvoir bâtir sur le moteur qu'il a créé, le moteur d'Ethereum.
Eh bien voilà, quand la planète Terre sera transformée en grand Ethereum, il n'y aura plus d'affaires Pegasus alors peut-être. Peut-être moins de risques aussi de cybersécurité. Non mais voilà, tout est lié à tout. On va continuer de parler de tout cela évidemment, on vous retrouvera tous à la rentrée. Vincent est toujours avec nous, Vincent Gann, puisqu'on était sur l'Ethereum, on a beaucoup parlé de Bitcoin tout à l'heure, de son potentiel. Est-ce que sur l'Ethereum, vous voyez une sortie de trading range un peu plus rapide que sur le Bitcoin pour ceux qui voudraient éventuellement trader sur l'Ethereum?
Oui, pour rapidement compléter tout ce qui vient d'être dit, effectivement, lorsqu'on regarde l'action des prix, les flux, c'est comme pour le Bitcoin depuis deux mois. Il y a une phase d'accumulation entre les 1 500 $ et les 2 000 $. Systématiquement, dès que le marché rentre dans cette zone, il y a des ordres qui passent à l'achat, il y a des investisseurs qui accumulent. Donc moi, j'estime que c'est une opportunité et je reste convaincu que lorsque le marché sortira par le haut de cette phase de range, eh bien, c'est l'Ether qui surperformera le Bitcoin pendant plusieurs mois.
En ce 23 juillet, 16h59 en direct, l'Ethereum cote 2 063 $, le Bitcoin 32 487. Merci à tous les trois. C'était le dernier épisode de cette première saison des Pros des Cryptos. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à chacun d'entre vous. Owen Simonin, qu'on salue de loin pour voilà sa chaîne YouTube qui cartonne. Hacher avec un H pour démarrer sa société Just Mining également. Merci beaucoup Claire. Claire Balva à nos côtés aussi, qu'on retrouvera avec beaucoup de plaisir le premier vendredi de septembre. Ce sera le 3 septembre pour le premier épisode de la prochaine saison. Claire Balva à nos côtés, donc régulièrement chaque vendredi, cofondatrice de Blockchain Partner. Et un grand merci à vous, Vincent Gann, également depuis TradingView France. Ce rendez-vous des pros des cryptos que vous pouvez retrouver également en podcast, bien évidemment. Bon week-end à tous. Très bel été si on se revoit pas d'ici à la rentrée. Le CAC 40, on va s'y reconnecter dans un instant. Il est en hausse, une belle hausse d'un peu plus d'1%. On va en parler avec nos experts du club dans une poignée de secondes. On vivra aussi ensemble en direct la clôture des marchés. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.